m'avez manqué.
Je vais ce soir vous faire désirer et aimer la République.
La bête de l'événement est là.
La République, c'est moi.
Je vous demande de vous arrêter.
Non, il ne faut pas tomber dans un extrémisme extrême.
Non, je le dis avec courtoisie, mais
avec courtoisie.
Avec courtoisie, bien sûr.
Ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin.
Il y a des gens qui n'ont pas envie d'être métissés, monsieur Attali, excusez-les.
Jean, au secours.
Voilà, bah c'était un peu l'envie de vomir sur ces ordures. Enfin, pardon.
Vous êtes sur Radio Courtoisie.
Bonjour chers auditeurs, heureux de vous retrouver en compagnie de toute l'équipe de Restons Courtois du vendredi soir, 17h30, 19h30, émission réalisée en partenariat avec Boulevard Voltaire, le grand quotidien de la France droite. C'est parti pour 2 heures avec ce soir, 3 voix d'exception pour observer l'envers de l'actualité de notre vieux pays. Damien Chalamel, pas du tout, Damien n'est pas là aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi. Philippe Charlaise, il n'est pas là mais il arrive bientôt, expert en questions énergétiques. Et nous avons Franck Herriot, journaliste police, justice, éditeur. Et Yves-Marie Sevilla, journaliste à Boulevard Voltaire. Vous pouvez, chers auditeurs, nous appeler au 01 46 51 00 85 ou nous envoyez vos courriels à courtoisie@rc.fr. On les lira à l'antenne dans toute la mesure du possible. Vous êtes comme d'habitude tous les bienvenus au programme ce soir. Éditorial Boualem Sansal dénonce dans son livre un régime algérien que le pouvoir français reçoit en grande pompe. En première partie, nous passerons 1 heure à peu près avec Pierre Marissève, le délégué général de l'Institut pour la Justice. Pas de réjouissance populaire sans casseurs, comment stopper les barbares? En deuxième partie, nous nous pencherons sur le vol d'une banane à 6 millions d'euros, on va sourire un peu. Et ce vol interroge, hein, c'est la dernière dinguerie de l'art contemporain. Et nous aurons parmi nous Samuel Martin, journaliste à Boulevard Voltaire, qui s'est penché sur ce cas intéressant. Et puis en dernière partie, vous avez l'habitude maintenant, nous aurons notre petit clin d'œil culture secours. Qu'on a vu, lu, entendu et qui nous a paru sympathique et à vous recommander ou alors on essaiera de vous décourager, à fuir, voilà, à suivre ou à fuir. Mais auparavant, notre traditionnel tour d'actualité, qu'est-ce que vous avez retenu de l'actualité de cette semaine, Yves-Marie Sevilla?
Oui, Marc, moi je voulais souligner que c'était en fin de semaine dernière, effectivement, j'avais écrit pour Boulevard Voltaire un élément relativement intéressant en lien avec les questions,
comme d'habitude,
ouais. Les questions qui se posent sur le service public et notamment l'audiovisuel public, et là, en l'occurrence, Radio France. Puisque vous avez une journaliste, une consoeur, Mathilde Cariou, salariée de Radio France, qui s'est fait remarquer ces derniers temps par 2 éléments. Elle a relayé la vidéo d'un influenceur qui appelait à boycotter l'univers, la galaxie de Vincent Bolloré. En l'occurrence, ça va des cinémas, des maisons relais dans les gares, des maisons d'édition. Bon, on connaît la chanson, mais ils vont désormais même vers les jeux de société, puisque certains jeux de société sont distribués par des maisons qui ont elles-mêmes été rachetées par l'univers effectivement détenu par Vincent Bolloré. Donc même le Sky Joe par exemple, qui est un jeu que certainement un grand nombre d'auditeurs connaissent et qui se vend à des millions d'exemplaires, qui est un simple jeu de cartes de société, il faut le boycotter parce qu'effectivement il est désormais propriété de Vincent Bolloré.
C'est une manière d'ouverture d'esprit.
Absolument. Donc il se trouve qu'en l'occurrence, cette journaliste du service public relaie cette vidéo qui est cet appel qui est celui d'un influenceur écologiste d'extrême gauche, extrêmement présent et suivi sur les réseaux. Bon, déjà, ça indique effectivement, il n'y a pas de recul quand elle relaie cet appel. C'est simplement un constat et on a l'impression que c'est une adhésion. Mais cette même journaliste est la même qui avait roulé dans la boue le canon français il y a quelques mois en Normandie, notamment relayant dans Ici Normandie la chaîne locale de Radio France, des militants de LFI qui se plaignaient d'avoir croisé dans la rue après un banquet du canon français, des insultes homophobes, racistes, et des prétendus saluts nazis. Donc effectivement, un article à charge qui a allumé une mèche invraisemblable d'attaques qui continue, mais en donnant du grain à moudre, notamment à l'eurodéputé LFI Emma Fourreau, qui est de Normandie et qui a fait du canon français une de ses obsessions. Mais, et j'en viens au cœur effectivement de ce sujet, cette même journaliste de Radio France, en septembre, il y a donc 8 mois, allez, signé dans le média d'extrême gauche Street Press un article sur une flottille de Gaza, une des flottilles de Gaza qui s'apprêtait effectivement à partir, flottille à laquelle appartenait cette même députée, eurodéputée LFI Emma Fourreau. Il y a une confusion des genres invraisemblable. Et surtout, effectivement, et c'est passé relativement à la trappe, une journaliste de Radio France du service public qui écrit dans un média d'extrême gauche, une officine de la France insoumise, puisqu'on connaît bien la ligne très, très, très engagée, très à gauche de Street Press.
Ouais, c'est incroyable. Hein. C'est vrai que ça donne un écho et ça montre que...
Bonjour à tous. Le canon
L'arrivée
français.
De Philippe Charlez.
Bonsoir, Philippe.
Emma Fourreau qui avait dit que le canon français sémait la terreur dans les villes françaises.
Ah oui, elle était très remontée contre le canon français.
Mais en l'occurrence, elle avait dénoncé...
Mais là, en l'occurrence, ce qui est incroyable, c'est que voilà, elle est considérée, elle travaille dans un média public et en même temps dans des médias extrêmement engagés à gauche. Donc il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Hein. On est...
Alors que souvenons-nous,
on est en plein dans ce que dénonce Charles Lalonque.
Absolument, et notamment, ce qu'il y a d'invraisemblable, c'est que Charles Lalonque, dans son rapport, a préconisé un certain nombre de mesures pour durcir la neutralité et l'impartialité que sont censés observer les journalistes de l'audiovisuel public. Dans le contre-rapport que France Télévisions a publié, il est souligné à un nombre de passages invraisemblables que la neutralité est parfaitement respectée et que la chaîne qui est censée effectivement vérifier et s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement en ce sens était parfaitement établie. On voit le résultat.
Ouais. Il y a encore quelques éléments à ajuster apparemment. Philippe Charlez, notre expert en énergie, qui est là.
Alors moi je voulais revenir, non pas sur les incidents, mais sur le match du PSG, mais en tant que sur l'événement sportif. On parlera après des événements extra-sportifs, mais moi je vais revenir. L'événement sportif. Et donc en fait, cette double victoire du PSG en Ligue des Champions m'inspire deux choses. La première, c'est la réussite exceptionnelle de l'entraîneur Luis Enrique qui est parvenu à faire de non-vedettes, si j'ose dire, entre guillemets, la première équipe d'Europe. Et donc, je crois qu'il faut lui rendre hommage sur ce sujet-là, puisque... Rappelez-vous qu'avec les Neymar,
Vous êtes très
Messi,
amateur de foot, Philippe Charlez.
Moi, j'aime bien le foot.
Je vous découvre une nouvelle facette.
Non, c'est une facette qui me suit depuis ma jeunesse.
À défaut d'avoir une équipe nationale de Belgique.
On peut être expert en énergie et aimer le football.
Et ben voilà, un énergique amateur de foot.
Il n'y a pas de contradiction. Comment il y a... Bien sûr qu'il y a une équipe en Belgique.
Ah, je sais.
Bien sûr. Sortez-le. Et donc, je voulais dire, la grande réussite de Luis Enrique, qui est parvenu à faire une grande équipe de non-vedettes, alors qu'avec les vedettes d'antan, rappelez-vous, Neymar, Mbappé, Messi, il n'était jamais parvenu à gagner la Ligue des Champions. Mais la deuxième chose qui m'inspire dans cette équipe...
Ouais. C'est-à-dire
Vous n'allez pas me laisser aller jusqu'au bout. Hein.
Deuxième
chose qui m'inspire, c'est que finalement, cette équipe est aussi l'image, entre guillemets, de la désindustrialisation française, puisque d'un côté, ce sont des capitaux qataris, et de l'autre, ce sont des joueurs qui, pratiquement, à une ou deux exceptions près, ne sont pas français, ce qui est d'ailleurs caractéristique de l'ensemble des équipes de football aujourd'hui. On sait que toutes les équipes londoniennes étaient financées soit par les Russes, soit par les Émiratis, avec extrêmement peu de joueurs anglais. Mais enfin, c'est quand même, à mon avis, je trouve, une image aussi de notre société qui s'est complètement délocalisée et mondialisée.
C'est le secteur le plus mondialisé de l'économie française, sans doute. Yves-Marie Sevilla,
très vite et Franck Herriot.
Oui, pardon, pour rebondir sur ce que dit effectivement Philippe Charlez. C'est amusant parce que je vais souligner le sujet Kylian Mbappé, effectivement, en Ligue des Champions, qui est le seul trophée qu'il n'a pas dans sa besace.
Et qu'il n'a pas.
Et qui a quitté le Paris Saint-Germain juste avant.
Voilà.
Et donc j'en souris effectivement parce que Kylian Mbappé est ce grand sportif qui se permet de donner des leçons et des avis politiques en expliquant effectivement qu'il fallait lutter contre l'extrême droite.
Oui, il est aussi un peu expert
politique. Je suis un peu taquin.
Non, c'est vrai. Franck Herriot, qu'est-ce que vous avez retenu cette semaine?
L'actualité qui m'a le plus marqué, parce que celle qui m'a le plus marqué, c'est l'affaire de la petite Liana. Mais ce qui m'a marqué, c'est la mort de... c'est pour ça que c'est la mort de Marjan Satrapi, 56 ans, l'auteur de Persepolis. Ça a été un film, mais c'est d'abord été un album sur la vie en Iran. Et on ne s'en rend pas compte aujourd'hui que quand cet album est sorti, on découvrait la vraie situation des Iraniens, ce qu'on avait oublié depuis la
révolution. Des Iraniennes, surtout.
Et des Iraniennes et des Iraniens, parce que c'est aussi... donc depuis 79, on avait un peu oublié ce pays, on avait un peu oublié ce qui s'y passait. Et donc je trouve c'est cette mort qui correspond, enfin qui arrive à un moment aussi où on est en pleine guerre contre les Mollahs, enfin contre les États-Unis et Israël contre les Mollahs. Voilà.
Absolument. Bon, et moi, juste, j'ai retenu la petite phrase de notre ami influenceur algérien, dont le nom m'échappe à l'instant, comment il s'appelle ? Karim Zeribi, qui donc a expliqué de manière très précise sur un média algérien qu'il y avait 10 à 15 millions d'Algériens en France et que ça faisait une force électorale absolument considérable. Hein, je crois qu'il parle de 12 millions précisément. Et que cette force devait absolument être utilisée pour vaincre le Rassemblement National dans les urnes lors des présidentielles. Voilà, comme ça c'est dit, il est très proche du gouvernement algérien, Karim Zeribi, et en l'occurrence, il a fait le compte des troupes et il les mobilise de manière la plus transparente qui soit sur un média algérien. J'ai trouvé que c'était quand même assez extraordinaire.
Il y a un parti qui semble avoir très bien compris.
Oui,
il y a un parti politique qui semble avoir très bien compris.
Elle a très bien compris ça et joue là-dessus. Et donc, il appelle clairement à voter, les banlieues à voter LFI.
C'est d'autant plus inquiétant que c'est très clair comme appel. S'il craignait qu'il y ait une réaction des Français épidermiques face à une tentative d'ingérence dans la politique de notre pays, il ne le dirait pas comme ça. Il le dit. J'ai bien peur qu'il ait raison d'avoir confiance, puisque... c'est pas... Je veux pas être pessimiste, mais les Français vont-ils réussir à se sortir du piège dans lequel on est?
Alors les 15 millions en question ne sont pas tous inscrits, ne votent pas tous. Ça fait beaucoup, mais on peut pas compter les 15 millions. Heureusement.
Oui, mais enfin, c'est quand même une force qu'ils cherchent à mobiliser et qui
absolument
est donc mobilisable.
Et qui est mobilisé.
Et 12 millions d'habitants, ils le soulignent d'ailleurs.
15 millions, est-ce que
12 millions d'électeurs, c'est considérable.
Est-ce qu'il y en a 15 millions qui ont la nationalité française? Peut-être pas. Il n'y en a pas 15 millions qui sont inscrits sur les listes électorales.
Il parle de 12 millions qui sont susceptibles de voter. Donc voilà.
Ça peut remonter à loin, effectivement, comme c'est peut remonter
c'est une sphère d'influence.
Aux années 60.
Exactement. Et donc c'est autour de 20% du corps électoral. Ce qui est quand même évidemment considérable.
Et par rapport à la démographie, c'est en augmentation constante. Donc c'est-à-dire que dans 10 ans, ce sera beaucoup plus.
Exactement. Voilà, allez, édito. Boualem Sansal dénonce dans son livre un régime algérien que le pouvoir français reçoit en grande pompe. Ce mardi 2 juin, le récit de Boualem Sansal sur son emprisonnement politique sur ordre du pouvoir algérien, La Légende, qui paraît chez Grasset, est apparu sur les tables des libraires, accompagné de ces mots « libre méditation d'un prisonnier encombrant ». Boualem Sansal est devenu encombrant en Algérie, mais aussi en France pour la gauche. Il a claqué la porte de son éditeur Gallimard, qui est, semble-t-il, sérieusement écorné dans le livre. Le pouvoir algérien qu'il a emprisonné durant des mois n'est pas ménagé non plus. L'apparition du livre de ce prisonnier politique, c'est le moment que les deux pays ont choisi pour organiser une énième rencontre au sommet. Tandis que Sansal mettait en vente le récit des exactions du régime, le ministre de l'Intérieur algérien Saïd Sayoud entamait lundi une visite officielle de deux jours en France, tout sourire, avec avec Réception et Tapis Rouge. Un épisode de plus dans le long ballet de séduction-humiliation entre la France et son ancienne colonie. C'est le quotidien du couple franco-algérien, un couple un peu malsain où l'un n'a de cesse que d'humilier l'autre. Il faut dire que la France met dans l'aplatissement beaucoup de bonne volonté. En février 2026, notre ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, s'est rendu en Algérie. D'autres ministres français ont suivi récemment, Alice Ruffaut, ministre délégué aux armées, et Gérald Darmanin, garde des Sceaux, en mai. Après les visites de Macron ou d'Elisabeth Borne, ça fait beaucoup, rien n'a changé. La France ne dit plus sa soumission, elle la crie pour obtenir le fameux réchauffement diplomatique. En réponse, Alger souffle le froid, bien plus souvent que le chaud. Saïd Saïd est ainsi le premier ministre algérien à faire le déplacement en France depuis plus de 2 ans. Pourquoi tant d'égards? Eh bien parce que la France a peur. Selon l'INSEE, le pays de naissance le plus fréquent chez les immigrés qui vivent en France, eh bien c'est l'Algérie, avec 12,4% de ses immigrés. L'Algérie arrive juste devant le Maroc, mais loin devant le Portugal, où la Tunisie, ça d'ailleurs rejoint d'ailleurs un peu les propos de Karim Zeribi dont on vient de parler. Macron a compris le risque, hein, il ne veut pas de problème avec l'Algérie, pas de soucis supplémentaires dans les banlieues, ce Bonaparte de la fuite maintient donc la tête enfoncée dans le sable algérien. L'ancienne colonie algérienne tient en otage l'ordre public français et ceux qui en ont la charge, j'en termine. Combien de citoyens algériens ou de double nationalité franco-algérienne ont-ils été appréhendés après les manifestations post-match? On aimerait le savoir. Le désir d'humilier d'un côté la repentance passionnée de l'autre. Les deux régimes, finalement, s'entendent à merveille. Simplement, ça commence à se voir. Voilà. Parlera d'ingérence avec tout cela. Est-ce que ça vous paraît, est-ce que ce déséquilibre vous frappe quand même des relations entre les deux pays, Philippe Charlez?
Je crois que vous avez bien situé les motivations. Il y a quand même eu pendant un certain temps la motivation du gaz et du pétrole qui avait son importance, que je connais bien, puisque j'ai même eu l'occasion dans les années 80 et 90 d'y aller plusieurs fois. Aujourd'hui, c'est plus vraiment le cas puisque nous n'importons pratiquement plus de gaz en provenance d'Algérie. Ceux qui auraient les Européens qui auraient la motivation la plus importante à cajoler le gouvernement algérien, aujourd'hui, devinez qui sont-ils ?
Les Italiens.
Les Italiens, absolument. Les Espagnols sont en froid et donc les gazoducs ont été à peu près coupés. Alors ils sont en froid avec l'Algérie puisqu'ils ont reconnu le Sahara espagnol comme étant marocain et non pas algérien. Ce qui fait que l'Algérie a du coup pratiquement envoie tout son gaz sur l'autre gazoduc qui remonte vers la Sicile et vers le sud de l'Italie. Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que notre motivation soit comme par le passé énergétique. Donc je vous rejoins, elle ne peut donc être que dans la crainte de problèmes, de révolution latente.
Il y a quelque chose de pathologique quand même, hein. Yves-Marie Sevilla.
Mais oui, mais d'autant plus qu'on voit que la différence de politique entre Bruno Retailleau et Laurent Nunez, on attend effectivement les fruits. Parce que Laurent Nunez nous explique qu'en matière de sécurité et d'immigration, tout va bien dans le meilleur des mondes et que les choses sont en bonne voie. On attend de voir effectivement ce que fera ce gouvernement, parce qu'en l'occurrence sur les questions d'immigration, de le fait que l'Algérie puisse accepter de récupérer ses ressortissants que nous souhaitons leur renvoyer, là-dessus on n'a pas encore de changement. Donc ce dégel pour quel fruit?
Bonne question. Allez, on tourne la page. Nous parlerons tout à l'heure du vol de cette banane à 6 millions d'euros qui interroge. Hein, c'est la dernière dinguerie de l'art contemporain. Nous aurons ici Samuel Martin qui nous expliquera tout. On aura notre petit clin d'œil culture dans la foulée. Mais d'abord, plus de réjouissance populaire sans casseurs. Comment stopper ces casseurs? Avec Pierre Marissève, le délégué général de l'Institut pour la justice. C'était attendu, hein, la finale de la Ligue des Champions a donné lieu à de nouvelles scènes de saccage insupportables. Le monde entier s'est partagé les images de la sauvagerie qui forme désormais la vitrine de la douce France. Les réjouissances, c'était cela. Il s'agit d'une vidéo diffusée le 31 mai par le député Rassemblement National et ancien policier Mathieu Vallée. On est à Paris, près des Champs-Élysées. Une voiture de police est prise à partie par des amateurs de foot. Et on écoute ce, voilà ce que ça donne. Voilà, bilan de la soirée, 178 blessés chez les forces de l'ordre, vous voyez le bruit des réjouissances. Ce lundi, le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, évoquait 890 interpellations, en hausse de 45% par rapport à la précédente soirée de la finale de la Ligue des Champions. 721 majeurs ont été placés en garde à vue. À Paris, 87 mineurs ont été eux aussi placés en garde à vue. Le plus jeune a 14 ans. Il y en a une douzaine qui feront l'objet d'une mesure éducative et pourra évoquer ce désastre auquel on s'habitue presque. Pierre Marissève, donc, est avec nous ce soir. On est très heureux de vous recevoir, Pierre Marissève. Vous êtes le délégué général de l'Institut pour la Justice. Alors, le calendrier est écrit. Hein, le prochain rendez-vous du pays avec les casseurs aura lieu le 14 juillet au soir.
Ah non, c'est bien avant.
On a la fête de la musique le 21 juin.
Et puis, vous êtes bien avant.
Et puis, la Coupe du Monde de football.
Il y a la Coupe du Monde de football avec France-Sénégal. Moi, je vous donne rendez-vous.
Et puis, l'Algérie est qualifiée la Coupe du Monde de football.
Ah oui, donc
vous savez.
Donc, on a un calendrier chargé.
Beaucoup d'occasions de revenir, de faire de prochaines émissions.
Bien avant le 14 juillet, très loin. Très, très loin.
Voilà, donc le temps de réparation. Ce qui a été cassé, on ne l'aura peut-être pas, hein, ce temps. Et de déférer devant le juge les pillards. On a quand même, Pierre-Marie Sève, l'impression presque d'une fatalité. Et on nous cite tout le temps les JO, hein, les Jeux Olympiques qui se sont bien passés, vous vous souvenez, voilà, c'était parfait. Donc comme quoi, quand on prend les mesures, on peut échapper à tout, etc. Est-ce que c'est une fausse excuse? Pourquoi est-ce qu'on est arrivé pour les JO et pas pour là?
Tout est question, à mon avis, de public. Vous regardez la semaine, le week-end où le Paris Saint-Germain a remporté la Ligue des Champions, où il y a eu les émeutes qui s'en sont suivies. Le Racing Club de Lens a fêté sa victoire en Coupe de France, si je ne me trompe pas. Et ils étaient plusieurs dizaines de milliers de personnes à Lens, et il n'y a eu aucun débordement. Pour les Jeux Olympiques, c'est la même chose. Non seulement on avait sécurisé d'une manière complètement extraordinaire, et d'ailleurs c'était nécessaire, les Jeux Olympiques, ça n'attire pas un public qui casse. Voilà. En revanche, le PSG, les matchs de football de l'Algérie, les victoires parfois de l'équipe de France. Moi, j'ai souvenir en 2018, où nous avions gagné, je crois, en 2018. Le lendemain, j'étais à les Places de la Bastille. On en avait très peu parlé dans les médias, mais Places de la Bastille, je me souviens avoir vu tous les cafés étaient cassés. Voilà. Personne, ou alors je ne regardais pas assez les médias à l'époque, mais on en avait très peu parlé, mais pourtant, c'était le cas. Donc, ça dépend, tout ça dépend du public. Il n'y a pas de fatalité, en l'occurrence. Il suffit que les événements qui mobilisent le public problématique soient particulièrement sécurisés. Bon, mais il suffirait en fait de régler le problème, et je dis il suffit, mais c'est ironique, il suffirait de régler les nombreux problèmes que connaît la France depuis 40 ans sur le sujet migratoire, judiciaire, sécuritaire, pour régler le problème.
Voilà, donc il y a du boulot. Alors on va parler de tout ça avec vous. Hein. On parlera du débat sur le laxisme judiciaire. On parlera de l'affaire Liana dans le Gers, affaire absolument tragique. On évoquera la réaction des politiques, les conséquences politiques de tout ça. Mais d'abord, je voulais qu'on commence peut-être, si vous voulez bien, par le profil des émeutiers. On en parle un peu. Qui casse? Les tribunaux se saisissent des émeutiers et les premières décisions sont assez parlantes. Alors j'en ai quelques-uns qui ont été attrapés par les oreilles, là. Sofiane M, par exemple, 22 ans, destruction de biens par un moyen dangereux, il encourt jusqu'à un an de prison et 15 000 euros d'amende, je ne sais pas combien Il a écopé, mais sans doute moins. On a pas mal parlé aussi d'un certain Raphaël D, qui a été attrapé pour rébellion. 12 mois de prison, dont 6 avec sursis. 6 mois fermes pourront être aménagés par un juge de l'application des peines, dit-on. Donc, beaucoup, beaucoup d'aménagements derrière les condamnations. Amer K, j'en cite encore un ou deux, et puis je vous demanderai ce que vous en pensez, si tout cela vous paraît adapté. Amer K, donc 19 ans, jugé pour transport d'armes et détention d'explosifs. Ce chérubin a été interpellé après avoir distribué des mortiers à des passants et dans son véhicule, on a retrouvé 12 mortiers, un taser, 2 couteaux, des fumigènes, des cartouches factices. Alors lui, il a eu droit à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et une interdiction de porter une arme pendant 5 ans. Voilà, je pourrais continuer la liste pendant longtemps. Est-ce que ça vous paraît adapté? Évidemment, pour le grand public, ça ne l'est pas. Ça paraît quand même très faible. Mais bon, le grand public n'est pas magistrat.
Absolument. Moi, alors, le premier problème là que je vois, c'est que on est obligé. Bon, l'occurrence c'est bien et la presse fait bien le travail, fait plutôt bien le travail, mais il est très difficile d'avoir une vision exhaustive des personnes, du nombre de personnes interpellées, du nombre de personnes placées en détention provisoire, du nombre de personnes déférées, du nombre de personnes condamnées et des peines auxquelles elles ont été condamnées.
Auxquelles elles seront condamnées.
Auxquelles elles seront condamnées, en tout cas, qui seront mises à exécution. Moi, je plaide à l'Institut pour la justice, on plaide pour plus de transparence dans la justice et moi, je pense que il devrait y avoir des informaticiens au ministère de la Justice qui montent un site internet dans lequel on a accès à tous les jugements. Tous les jugements sont rendus au nom
du
peuple français.
C'est vrai que c'est une nébuleuse, on ne sait pas très bien.
Complètement.
Là, moi, je vous cite ce qui a été requis. Mais...
On vit comme au 19e siècle dans la justice. Donc, on a autant de magistrats qu'au 19e siècle, d'ailleurs, c'est pas un hasard. On vit comme au 19e siècle, et donc la justice était rendue au nom du peuple français au 19e siècle. Bah, évidemment, on comptait sur la presse, on ne pouvait que compter sur la presse pour faire ce travail-là. Mais aujourd'hui, on a des milliers de décisions qui sont rendues tous les jours. C'est évident que les journalistes ne peuvent pas y être à chaque fois. Et puis quand vous avez une décision qui intéresse le public, il y aura peut-être un journaliste de la presse quotidienne régionale qui va y être pour la première décision, puis s'il y a appel, bah, il n'y sera pas forcément. Les journalistes ont beaucoup de travail, ils n'ont pas que ça à faire, ils ne se sont pas des fonctionnaires qui sont supposés nous donner au grand public ce qui se passe réellement dans les tribunaux. Deuxième proposition d'ailleurs, toujours dans le même sens, je pense personnellement, et à l'Institut pour la justice, nous plaidons pour cela, que tous les procès devraient être filmés et disponibles en intégralité sur une base de données publique.
Comme les grands procès, ça
Absolument.
Arrive parfois.
Hein. C'est très rare, mais ça arrive de plus en plus.
Ouais.
Le premier grand procès, c'était le procès Barbie dans les années 80, enfin les années 80, début des années 90, à Lyon. Mais depuis, effectivement, c'est très rare. Dupond-Moretti avait vaguement émis l'idée, quand il était arrivé en 2020, de rendre ça plus facile. Aujourd'hui, on a un petit peu plus de journalistes qui peuvent pénétrer dans les salles d'audience, mais ça reste encore très, très loin d'être systématique. Et donc, on se dit, oui, il y a un gouffre entre les citoyens et leur justice. Bah, évidemment, les citoyens ne peuvent pas pénétrer dans les salles d'audience. C'est
mais qu'est-ce
extrêmement...
que ça changerait, finalement, le fait de les filmer? Alors, il y aurait sûrement beaucoup de gens que ça intéresserait, parce que c'est quand même un spectacle d'abord extraordinaire, une cour d'assises.
Oui.
Et puis, le retentissement est tellement important que évidemment, il y aurait un public pour ça.
Oui, et puis ça intéresse au plus haut lieu, mais je trouve le fonctionnement de la démocratie a besoin qu'on sache de quelle manière elle est rendue la justice. On n'a pas besoin de tous regarder tous les procès qui sont disponibles, qui seraient filmés, mais de temps en temps, savoir à quoi ressemble notre justice.
Comme les commissions parlementaires. Franck Arnoux, voilà.
Préciser pour nos auditeurs, la justice se rend au nom du peuple français et tous les citoyens ont le droit d'aller dans une salle d'audience. S'ils n'y vont pas, c'est parce que, ou s'ils ne veulent pas entrer, c'est parce qu'il n'y a pas de place. Et pour les grands procès, en général, il y a une retransmission dans d'autres salles en direct pour qu'ils puissent y assister.
Mais on n'a jamais accès à ces images, d'ailleurs.
Ah non, bah non. C'est l'autorisation du président de la Chambre.
C'est ça.
C'est quand même une diffusion très restreinte.
C'est extrêmement restreinte.
Non, mais tout à fait. Mais juste pour préciser que tout citoyen français a le droit, tous les jours, s'il le souhaite, d'aller dans une salle d'audience, que ce soit un procès en assises, un tribunal correctionnel.
Mais à l'ère du numérique.
Tout à fait. Non, mais c'était pour le préciser. Ensuite, tous les journalistes ont accès à toutes les salles d'audience.
Oui,
d'accord, mais.
Oui. Petite question. Est-ce que c'est une exception française ou est-ce qu'au contraire, un peu partout dans le monde, finalement, cette transparence que vous recommandez est classique ? Donc, je ne sais pas, est-ce qu'en Grande-Bretagne, en Italie, en Allemagne, est-ce que ces données que vous souhaiteriez voir quasiment publiques le sont ou pas ?
Parce qu'il y a des caméras. C'est une excellente question. J'avoue que je ne sais pas exactement. Je pense, je soupçonne que quand même, dans tous les pays du monde, la justice est une institution publique, est extrêmement lente à évoluer. Donc peut-être qu'à Singapour, ce n'est pas le cas, parce que les services publics
sont sans aller jusque Singapour.
Très rapides. Mais je pense que dans l'ensemble des pays du monde, il y a une grande inertie. La justice, les juges sont extrêmement conservateurs et ils conservent d'ailleurs non pas les valeurs de la société, mais ils conservent leur fonctionnement, je ne vais pas dire leur caste, mais il y a en tout cas un effet de...
Leur prérogative, on va dire.
Voilà, on va dire ça. Donc, ils sont très conservateurs. Et puis, en plus, c'est un service public, donc ça change, ça évolue très doucement. Moi, quand j'ai fait mon premier stage, c'était il n'y a pas si peu de temps, c'était il y a un peu plus de 10 ans, dans un cabinet d'avocat, et que je me rends compte qu'ils en étaient encore au fax. Je n'avais jamais vu de fax de ma vie. Voilà. Je me rends compte que tout fonctionne avec un fax.
D'avocat voilà. Pour retrouver les fax.
Alors, ça a été changé là pendant le Covid. Il y a un côté musée, c'est certain. Quand je vois les magistrats, quand j'apprends, je discute avec beaucoup de magistrats, j'en connais beaucoup et j'ai de l'amitié pour eux, en tout cas ceux que je connais, qu'ils travaillent avec un logiciel qui s'appelle Word Perfect, qui est édité par une société du Texas depuis 1995, mais qui n'a pas été mise à jour depuis 1995, et que les magistrats français travaillent encore avec ça, on ne peut pas se dire que la justice évolue tellement avec son temps, et il faudrait peut-être qu'elle le fasse, en tout cas sur cette question.
Mais sur le fond, qu'est-ce que ça changerait le fait ? C'est très intéressant, je trouve ça très intéressant, comme vous savez qu'on n'y pense pas, mais avoir des caméras dans des salles d'audience, surtout pour ce genre de choses, parce que pour le tout venant...
Le débat est permanent au sein de la justice, il y a de plus en plus de magistrats qui y sont favorables.
Ah oui ? Qu'est-ce que ça changerait ? Est-ce que ça, les magistrats, est-ce que le public se rendrait compte, ce serait peut-être les deux, de la complexité du...
Oui.
De l'exercice pour un magistrat, ce qui est possible.
Ouais.
Ou est-ce que le public se dirait, non mais qu'est-ce que c'est que ce laxisme incroyable et qui nous protège ?
Je pense les deux. Je pense les deux. Il y aurait une vertu pédagogique en effet pour faire comprendre au public, parce que quand on travaille par l'intermédiaire de la presse, et heureusement qu'il y a la presse, mais quand on travaille par l'intermédiaire de la presse, c'est certain que le grand public a accès à des données, des informations qui vont être marquantes. Voilà, on ne peut pas forcément toujours être dans la nuance.
Des briques d'informations sur un dossier
parfois tentaculaire. Oui, et puis c'est normal, le grand public va cliquer sur l'affaire la plus choquante tout de suite pour voir le gros titre qui fait choc. Mais en fait, effectivement... Dans quasi-totalité des cas, quand on va dans la nuance et quand on va dans le fond d'un dossier, bon, il y a beaucoup de choses à nuancer. On nuance naturellement les grands titres. Tout n'est pas blanc ou noir. Donc, il y aurait cette vertu-là pédagogique, mais je pense aussi que dans d'autres cas, on verrait la réalité de ce qui, parfois, est scandaleux. Moi, il y a très peu de temps, j'ai regardé France 3, je crois, est allé dans une salle d'audience du juge d'application des peines à Lisieux, me semble-t-il. Et puis, j'ai vu quelque chose que j'ai trouvé aberrant et que je n'aurais pas pu savoir ou voir autrement, en tout cas là, qui a été illustré de façon éclatante. On a la juge d'application des peines qui a en face d'elle un condamné et donc elle va éventuellement aménager sa peine ou réduire, etc. Et puis, elle lui fait lecture de de son casier judiciaire. Et donc, il a été condamné pour trafic, pour violence conjugale, pour blessure sur je ne sais pas qui. Il a 7 ou 8 condamnations et puis elle en laisse certainement de côté. Et puis, elle finit en disant « Pour toutes ces infractions, vous n'avez jamais été condamné à de la prison. » Ah, et ben c'est bien de savoir que ça fonctionne comme ça, la justice. Parce que la presse, ce qu'elle nous dit quand elle va dans un compte-rendu d'audience, c'est que, et elle ne peut pas le savoir d'ailleurs, c'est que telle personne a été condamnée à quelques mois de prison ferme. Mais en fait, elle ne sait pas. On ne peut pas savoir à l'avance la décision qui sera faite tout de suite après par le juge d'application des peines, dans lequel il va détricoter complètement cette peine.
Le jugement. Oui, c'est ça.
Voilà,
c'est
le jugement.
Ça rend très complexe le suivi, d'ailleurs.
Absolument.
C'est Marie Sevilla, d'ailleurs, qui s'occupe de ça chez nous, mais c'est complexe.
C'est extrêmement complexe.
Parce qu'il y a des audiences, il y a un délibéré, ensuite il y a un juge d'application des peines. Alors tout ça, c'était complètement échelonné, et c'est vrai que le français
s'est perdu. Mais les juges eux-mêmes se perdent.
Aiment bien avoir tout d'un coup.
Bien sûr, et c'est légitime.
Et c'est légitime. Yves-Marie Sévillan, nous sommes, je rappelle, avec Pierre Marissef, qui est le délégué général de l'Institut pour la Justice. Yves-Marie.
Non, je me faisais effectivement la réflexion que l'institution judiciaire se défend certainement aussi en évoquant l'importance de l'indépendance, et que si jamais, voilà, avec un certain nombre d'auditions, de comparutions qui étaient publiques, il pourrait y avoir, voilà, parce qu'on imagine à l'heure des réseaux sociaux que les images et l'ensemble des réseaux pourraient se mobiliser dans un sens ou dans un autre et utiliser des images qui pourraient faire pression sur les magistrats. Donc on imagine que l'institution se protège.
Oui, on peut comprendre qu'il y a un certain réflexe, mais... Bon, on peut imaginer que ça soit fait a posteriori. On pourrait même imaginer la création d'une infraction de détournement des images à des fins frauduleuses ou à des fins malhonnêtes. Donc, et créer un délit.
Il faut savoir de quoi on parle. Si on parle de filmer les procès ou de les diffuser en direct, ça, c'est en pas tout à fait la même chose.
Parce que ce que
craignent les magistrats, enfin, les opposants à la captation des débats, c'est qu'ils influencent. Non seulement les acteurs du procès, mais aussi l'opinion publique.
C'est peut-être pour ça qu'il faut que ce soit fait a posteriori.
Alors voilà, ce qui était prévu, ouais. Ce que certains défendent, c'est la captation des images et la diffusion après un jugement.
Ah oui, dans le cadre d'un documentaire, etc. Ouais. Ça n'a rien à voir. Là, c'est pas du tout
ce que je précisais
tout
à l'heure, quand vous avez des grands procès, qu'il n'y a pas assez de place dans les salles d'audience, on retransmet, donc comme je disais tout à l'heure, les débats dans une salle voisine, mais ces images ne quittent pas cet endroit. Je veux dire, on respecte simplement, c'est effectivement, que la justice puisse être rendue au nom du peuple français et devant les citoyens.
Alors, il y a évidemment une dimension migratoire dans tout ça, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Vous avez, par exemple, un cas, j'aime bien citer des cas précis, parce que on s'en rend bien compte, nous avons un certain Hichem S., 20 ans, alors lui il est algérien et il comparait pour le vol du collier d'un supporter de foot et pour outrage et violence sur un policier.
Un supporter ou une supportrice ?
Un supporter, j'ai dit. Donc là, il y avait un collier sur le cou d'un supporter et pour outrage donc et violence sur un policier. Il est venu de l'étranger afin de commettre ses dégradations et ses vols. Alors il admet, notre ami Hichem, 20 ans, avoir insulté le policier, mais il réfute le vol du collier. Bon, il a écopé quand même de 10 mois de prison avec sursis, assorti d'une interdiction du territoire français de 5 ans. Bon, donc c'est le volet. Il y a des gens qui viennent, des étrangers, qui viennent commettre des délits en France pour ce genre de manifestation.
Il est évident que je pense que maintenant, la France est internationalement connue comme un pays dans lequel... le chaos est relativement fréquent, dans lequel, évidemment, des voyous peuvent se livrer à des violences crapuleuses, ce qui est le cas. Et puis, ça ne va pas aller en s'arrangeant. Et puis, on est peut-être aussi connu comme un pays dans lequel il y a peu de conséquences à nos actes. Et je pense que ce genre de décision va plutôt renforcer cette réputation, malheureusement.
Ouais, ça ne va pas les décourager. Yves-Marie Sévillan.
Oui, ce qu'il y a d'invraisemblable, c'est qu'on a tous vu les vidéos, et effectivement, elle démontre bien que la question migratoire est clairement posée, dans la mesure où c'est une jeunesse issue de l'immigration, quel que soit le nombre de générations dont il s'agit. Et je souligne, vis-à-vis de Pierre Marissev, je m'amusais effectivement de notre consoeur Isabelle Saporta, qui notait il y a quelques jours dans une de ses chroniques sur RTL.
Donc la journaliste Isabelle Saporta,
qui notait que les délinquants s'appelaient aussi Hugues et Clément et qu'ils appartenaient aussi au beau quartier. Voilà, elle dénonçait effectivement la stigmatisation de l'extrême droite qui évoque, je cite, une petite musique dans la mesure où les personnes responsables de ce qui s'est passé le soir de la victoire du PSG seraient, je cite encore, ces gens-là. Sa chronique, c'était l'extrême droite fantasme sur ces gens-là qui auraient mis à sac Paris. Donc qu'est-ce que vous lui répondez ?
Moi, je constate, en regardant en tout cas l'exemple très parlant de fameux Hugues, du gentil Hugues, comme les réseaux sociaux l'ont surnommé, qui s'est avéré être en fait un antifa.
Je rappelle, hein, c'est donc un jeune casseur qui a été condamné hein, par les tribunaux.
Oui, trois fois rien.
Il est quand même passé devant les tribunaux, c'est ça que je veux dire, à la suite de l'après-match. Et il a donné une interview sur BFM TV.
Apolline de Malherbe.
Chez Apolline de Malherbe, pour expliquer que...
Que les policiers étaient racistes,
pour dénoncer la police.
Et il était présenté comme un jeune homme lambda, alors qu'en fait, on s'est rendu compte, et on peut souligner le travail de Pierre Sautarel, absolument extraordinaire, et de toute l'équipe de F de Souche, qui ont fait un travail extraordinaire, qui ont démontré que ce jeune homme était en fait non seulement pas supporter du PSG comme il le prétendait, mais supporter de l'Olympique de Marseille, s'il vous plaît. Il aurait été supporter de l'AJ Auxerre, à la limite, on aurait pu se dire, il avait changé d'allégeance, mais là, bon, entre Marseille et Paris, ça semble assez peu probable. C'est en fait un des créateurs d'un groupe antifa proche de la Jeune Garde et de tout ce qu'on connaît. Et donc, c'est évidemment quelqu'un qui est très biaisé et orienté dans ce qu'il va dire à la télévision.
Tout sauf neutre.
Et puis moi, je me dis qu'en fait, c'est ça, c'est qu'on a des prénoms à consonance étrangère, donc là, le lien migratoire est assez évident, même si on ne l'essentialise pas, mais il est assez évident pour qui veut bien être à peu près honnête deux minutes, intellectuellement. Et puis, on voit qu'effectivement, les prénoms, en fait, les prénoms français, donc non issus de l'immigration, eh bien, en fait, ce sont des antifas. En tout cas, au moins pour celui qu'on a vu à la télévision. Donc, c'est tout de même un phénomène intéressant de voir que les antifas sont dans la rue avec les émeutiers du PSG, issus des cités,
absolument.
Etc.
C'est l'électorat de Mélenchon.
Ben voilà.
L'ultra-gauche.
Qui met le bazar.
Et l'immigration. Ou non assimilée. Philippe Charlez.
Oui. Alors d'abord, par rapport au football, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a quand même un changement complet de paradigme, si j'ose dire. On a connu des violences dans le football dans les années 80-90, appelées l'hooliganisme. Et d'ailleurs, qui n'était pas qu'en Angleterre, on trouvait ça au Brésil, etc. Mais en fait, le creuset de l'hooliganisme, c'était des bagarres très violentes entre supporters de clubs différents. D'accord. Et notamment, je discutais cette semaine avec un ami brésilien qui m'expliquait qu'au Brésil, on avait connu de l'hooliganisme extrêmement violent. Mais alors, quand je dis violent, ça peut se terminer avec 20 morts hein, du tel hooliganisme. Mais ce que je veux dire, c'est que la nature était complètement différente. C'est-à-dire que c'était vraiment lié au football et à l'opposition épidermique, on va dire, entre deux clubs de football. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. On sait que ces jeunes qui descendent dans les rues pour tout casser, le football n'est qu'une excuse et qu'elle est mais que fondamentalement, il est complètement étranger aux bagarres. La deuxième chose, je voudrais quand même qu'on arrête de dire c'est lié à l'immigration au sens large, parce que vous avez quand même un certain nombre d'immigrés qui ne sont absolument pas concernés.
Non,
on ne voit par
sûr,
exemple pas
sûr.
D'asiatiques, ils ne sont absolument pas concernés. Donc moi je voudrais bien qu'on cible réellement l'immigration concernée et non pas généralisée au mot immigration, parce que ça stigmatise des populations qui n'ont rien à voir là-dedans.
Oui, mais bon, il faut quand même au bout d'un moment dire aussi les choses. Hein.
Oui, il faut dire les choses, mais qu'on les dise jusqu'au bout.
Oui,
ça veut dire une immigration maghrébine et subsaharienne, point barre.
Et aussi beaucoup de nationalité française.
Oui, mais issue de cette immigration.
Ça va de soi, Philippe. L'immigration chinoise ou asiatique, elle est réduite à peau de chagrin aujourd'hui.
C'est quand même plusieurs centaines de milliers de personnes
elle existe.
Et j'aime autant vous dire que pour les connaître, ils se sentent parfois visés quand on parle d'immigration au sens large. Et donc, je m'érige contre ce mot généralisé. Puisqu'eux ne sont pas concernés, on va dire aussi, il y a aussi de l'immigration, elle est très faible, mais qui vient d'Amérique du Sud, elle existe aussi.
D'autant que les communautés asiatiques se sentent parfois visées par les actes de la racaille
absolument.
Et de la délinquance.
Absolument. Les cafés notamment.
Oui,
puisque
absolument.
Aujourd'hui, dans Paris, tous les cafés qui appartenaient dans le temps aux Auvergnats, en grande partie, ont été repris par des Chinois. Hein.
Absolument.
Allez, je voudrais qu'on se penche sur les sanctions qu'on oppose à ces émeutiers.
Reste en Courtois avec Marc Baudrier et Boulevard Voltaire.
Et avec Franck Herriot, Philippe Charlez et Yves-Marie Sévilla, nous recevons Pierre-Marie Sèvre, qui est le délégué général de l'Institut pour la Justice, que vous connaissez tous.
J'espère.
Voilà, on espère. Donc les sanctions, on a bien vu que à gauche, en tout cas, ou dans beaucoup de médias, il y a quand même une tendance qui est très ancienne, évidemment, sur laquelle on voit qu'il faut essayer de les comprendre, on justifie par les conditions de vie, par un tas de choses. J'aimerais quand même qu'on entende d'abord, pour commencer, les revendications assez complexes de ces émeutiers. Ce son a été recueilli le soir de la victoire par les équipes de 100% aux frontières. C'était sur CNews.
Attendez, on n'a pas d'âme ici.
Voilà.
Hey, qu'on gagne ou qu'on perd, c'est le feu. On perd, on gagne. Ça va exploser ici,
voilà.
Les gars. Je vous le dis. Voilà, je vous le dis.
Voilà.
Vous, c'est quoi votre programme après du coup?
Ah ouais, on va tout casser.
Non, on va tout casser.
Non. Moi, c'est Paris.
Ouais, Free Palestine.
Ouais,
Free Palestine, ouais.
Là, c'est la guerre. C'est vraiment la guerre. Je suis quoi avec le masque?
Merci, c'est bonne, là.
De fou. Tu vois pas? Comment c'est bon, de ouf, là?
Ouais, vous avez un petit message à faire passer à la caméra, moi.
Free Palestine.
Les Arsenal.
Free Palestine.
Arsenal.
Free Toulouse. Free Palestine.
Free Congo.
En vrai, t'as eu moi. T'as vu, mes parents, ils m'attendent à la maison, mais je suis venu là, je vais faire le feu. La police qui vienne.
Voilà, donc un petit extrait de l'ambiance de l'après-match. On voit que les revendications sont quand même assez curieuses. On a la Free Palestine, on va tout casser, etc. Pierre-Marie Sèvre, qu'est-ce que ça vous inspire?
Moi, ça me fait penser au lumpenprolétariat, le concept marxiste qui disait que il pouvait être allié ou ennemi de la révolution, d'ailleurs, selon Marx, mais c'était cette cette partie du peuple très, très réduite numériquement, mais qui posait d'énormes problèmes de délinquance, notamment, et qui n'a aucune revendication. Bon, là, ils disent Free Palestine, parce que très franchement, à mon avis, ils ne sauraient pas situer la Palestine sur une carte. Donc, ce sont des écervelés qui viennent pour casser, pour détruire, parce que c'est...
Écervelés, mais quand même manipulés, parce qu'on voit bien que là, le Free Palestine, on voit bien qu'il y a quelque chose de...
Oui, certainement, c'est vrai.
D'abord, il y a une volonté de casser, ensuite, il y a quand même un slogan plus ou moins politique.
Je pense qu'ils reprennent le slogan parce qu'ils l'entendent dans leur milieu, mais je ne suis pas sûr qu'ils comprennent le moindre tenant et aboutissant du sujet de la Palestine. On va dire, s'il y a des revendications politiques, elles sont quand même très floues et... un peu désordonné. Mais donc moi, je pense à ça. Je pense à ce lumpenprolétariat qui pourrit la vie des gens, qui est un ennemi des gens honnêtes et qui bénéficie malheureusement de toute la sympathie de la gauche qui, elle, décide, dans son logiciel idéologique, de s'opposer systématiquement à ce qu'elle perçoit comme la majorité. Quand vous êtes quelqu'un de la classe moyenne, quand vous êtes blanc, quand vous êtes un homme, quand vous êtes tout ce que vous voulez, vous êtes forcément méchant. Et à l'inverse, quand vous êtes un délinquant, vous avez beau être blanc, homme, quand vous êtes un délinquant d'ailleurs, vous êtes dans ce retournement des privilèges, vous êtes très haut dans la nouvelle hiérarchie des privilèges. La délinquance est visiblement très élevée dans le logiciel de la gauche. Bon, moi, je le déplore. Je pense que c'est justement ce qui détruit une civilisation que de penser comme ça. Mais malheureusement, il y a encore beaucoup de gens qui partagent cette analyse.
On a affaire à une force décivilisationnelle, si on peut dire.
Oui, complètement.
Un petit peu. Philippe Charlez.
Oui, je suis tout à fait en phase avec vous. C'est-à-dire qu'on retrouve derrière tout ça vraiment le logiciel marxiste. Il n'a pas fallu attendre, disons, l'histoire récente pour voir la convergence, notamment entre même l'islam et le marxisme. Il a été vécu à la fois pendant la révolution russe où il y avait réellement une concordance, on l'a vu au départ de la révolution iranienne où il y a eu convergence entre les marxistes et les islamistes, et d'ailleurs les marxistes ont été des idiots utiles des islamistes puisqu'ils ont ensuite été exterminés, et donc je pense qu'aujourd'hui qu'est-ce qui réunit ces jeunes quand on dit jeunes immigrés et Antifa. Qu'est-ce qui les réunit? Je crois qu'avant tout, c'est la haine de la notion de propriété, et c'est-à-dire tout ce qui se rapporte, on va dire, à une notion de capitalisme. Et donc, on le voit. Et puis, il ne faut pas oublier que derrière, en dehors...
Enfin là, on voit bien que ce n'est pas la haine, il n'y a aucune construction politique.
Ben, non, je ne vais pas aller jusqu'à construction. Même chez les Antifa, il y a un petit peu de construction, mais ce n'est quand même pas terrible. Mais il y a, disons, une haine de la notion de propriété, de la notion de capitalisme. Et puis, il ne faut pas oublier que derrière, il y a aussi des opportunistes, c'est-à-dire des jeunes qui viennent essentiellement pour voler, pour racketter. Et pour racketter. Donc, celui qui probablement a volé le collier du pauvre supporter, je ne sais pas s'il avait un grand idéal idéologique derrière.
Oui, c'est probable. Yves-Marie Sévillain.
Non mais on voit bien, effectivement, on l'évoquait dans les couloirs de ce studio avant l'émission, l'effondrement moral. On a aujourd'hui une jeunesse effectivement qui déteste la France, qui déteste nos institutions et qui déteste notre passé, qui n'est plus du tout enraciné. Et le phénomène s'amplifie, on voit bien, il y a quasiment deux fois plus d'interpellations en un an par rapport à la victoire du Paris Saint-Germain il y a un an sur la même compétition sportive. Donc vous avez une jeunesse qui met à sac et qui n'a plus aucun fondement moral, c'est-à-dire que c'est devenu un jeu, et le phénomène va aller en s'amplifiant, puisqu'il s'amplifie déjà, et désormais, la moindre occasion, qu'effectivement on l'a évoqué, que ce soit le Nouvel An, le 14 juillet, une compétition sportive, est l'occasion pour des centaines de milliers de personnes, difficile à chiffrer, dizaines de milliers en tout cas, celles qui sont les plus... violente, voilà, que c'est l'occasion de saccage parce qu'il ne respecte rien de ce qu'est notre société et notre pays.
Alors, nous allons appeler Jacques Dallest. Jacques Dallest est procureur honoraire, il est procureur général, il a été procureur général, procureur et juge d'instruction, notamment à Ajaccio, Grenoble, Marseille. Il est à l'origine du pôle Cold Case à Nanterre, donc toutes ces affaires froides qui étaient tombées dans l'oubli. Il a écrit deux livres, Sur les chemins du crime en 2024, et puis Cold Case, un magistrat enquête. Les deux sont publiés chez Mareuil Éditions. Bonjour Jacques Dallest.
Bonsoir, bonjour.
Bonsoir. Bonsoir. bon, merci de nous rejoindre. Simplement, question, est-ce que l'appareil judiciaire est adapté aujourd'hui à ce type de manifestations et de petits délits qui se multiplient? Vous avez vu qu'on a un calendrier chargé dans lequel ça risque d'arriver encore, hein, ce type de dégradation, etc. Est-ce que l'arsenal français est suffisant et est adapté à ce type de situation qui choque beaucoup les Français, hein, et qui les amène parfois à accuser la magistrature de pas être au niveau.
Oui, alors on est sur des phénomènes de masse qui touchent la France entière et qui ne sont pas nouveaux. Il y a tout lieu de craindre que si la France gagne la Coupe du Monde de foot, on ait des manifestations également, comme souvent. Alors, en tout cas, en ce qui concerne l'arsenal législatif, il est complet. On a tous les textes dans le code pénal qui permettent de réprimer les exactions multiples qui se produisent sur la voie publique, évidemment. Ce qui est beaucoup plus compliqué, et c'est pour ça que le sujet revient régulièrement sur le tapis, je pense aux gilets jaunes, je pense aux manifestations sociales diverses où il y a des dégradations, des choses comme ça, on a toujours à peu près la même problématique. C'est comment arriver à identifier, arrêter, juger les auteurs, sachant qu'ils agissent en groupe. Et vous savez que dès qu'on agit, on commet des crimes et délits en groupe, c'est beaucoup plus facile pour les intéressés. D'abord, c'est incitatif, puisque quand on est plusieurs, on se donne du cœur, du courage, et on fait des choses qu'on ne ferait sans doute pas seul. Et que judiciairement, il n'est pas simple d'identifier individuellement les faits, puisque le problème, la question de la responsabilité pénale, elle est individuelle. Donc ça, c'est une question classique que connaissent bien les services de police, les services de maintien de l'ordre et la police judiciaire, et donc les procureurs et la justice, d'arriver à arrêter les gens. Et sur une 300 personnes arrêtées, ben, finalement, vous allez en déférer 10, et sur les 10, vous en avez condamné 4, parce que les dossiers seront faits un peu vite, qu'il y a un débat sur la responsabilité, les faits sont souvent contestés, les auteurs ne sont pas toujours connus de la justice. Ça peut être des gens qui ont un casier vierge ou des petites choses. Et donc, les peines prononcées ne sont pas forcément à la hauteur des attentes sociales qui aimeraient des punitions réelles. Et ça, ça fait 40 ans que ça existe. Je dirais même beaucoup plus. Et donc, on se repose toujours les mêmes questions. Et on n'a pas trouvé de solution, si ce n'est de renvoyer au champ social, à la société elle-même, l'éducation, une espèce de civilisation du comportement qu'ont certains pays, où il serait impensable d'agir de cette manière, mais qu'on n'a pas en France, où on s'excite, on fait la fête, et en cassant, en commettant des délits de toutes sortes. Sur un autre terrain, regardez les free parties, qu'on appelait les raves.
Oui.
Qu'on a ? On a de la drogue, on a toutes sortes de choses, et comme si cette délinquance était presque nécessaire à l'accomplissement de la fête, eh ben on a l'impression que quand on déborde de joie, qu'on est dans le festif sur la voie publique, certains, restons sur une minorité, puisque ce n'est pas le cas évidemment de tous les manifestants, ben certains en profitent pour se défouler, casser, voler, piller. C'est un défi auquel sont confrontés tout le monde, toute la société, et notamment la justice.
Alors, c'est intéressant parce que vous faites vraiment la part du gouffre, de l'écart entre ce qu'attend la société et ce que peut ou ce que décide le juge, en tout cas. Franck Herriot et puis Pierre Marissève.
Bonsoir Jacques Dallest. Est-ce que le système de les comparutions immédiates sont bien adaptées à ce genre de situation? Je pensais aux émeutiers.
Bah, c'est toujours la réponse pénale habituelle, puisqu'on a une délinquance immédiate qui vient de se produire avec des faits assez simples, même si l'imputation de la culpabilité n'est pas simple à distinguer, mais les faits en eux-mêmes ne sont pas très compliqués. Et souvent, le recours à la comparution immédiate, c'est la réponse que tous les procureurs ont en France. Moi, je l'ai mis en application quand on a des événements comme ça. Parce qu'on n'a pas trop d'alternatives. Si ce n'est pas une comparution immédiate, c'est-à-dire un jugement rapide, au vu d'un dossier qui peut être incomplet, insuffisant, c'est quoi d'autre? On ne va pas saisir un juge d'instruction, qui sont déjà largement surchargés d'affaires de casse, sachant que les juges n'instruisent que des dossiers complexes ou d'une réelle gravité. D'ailleurs, il arrive que dans des manifestations, s'il y a une agression grave ou pire, qu'une instruction soit ouverte, mais le tout venant des émeutiers, des délinquants de rue, etc., des manifestants actifs, c'est plutôt le recours à un traitement rapide, on appelle la comparution immédiate, dont on ne peut pas se priver parce qu'on n'a pas d'autres réponses. Si, il y a d'autres réponses, on convoque la personne ultérieurement, une composition pénale, mais comparution immédiate, c'est quand même déferrement monotomain de l'intéressé au parquet, attendre d'une journée avant de passer devant le tribunal, et à l'issue, il peut y avoir des peines de prison. Donc ça est quand même une mesure qui a une certaine signification.
Mais la plupart du temps, les dossiers, vous le disiez, les dossiers sont peu épais, il y a peu de preuves, et donc une difficulté pour le magistrat, ou pour les magistrats à chaque fois, de déterminer une peine ou de sanctionner.
Jacques Dallest,
oui, déjà, c'est le procureur honoraire. Parce que souvent, ils contestent les faits avec leur avocat, et c'est pas moi, c'est l'autre, puis ils sont difficilement, vous avez remarqué qu'ils sont souvent habillés de noir, de tenues assez passe-partout. La pire des choses et la bêtise que commettent certains, c'est d'arriver avec une tunique de couleur vive, rouge, un maillot qui les rendrait reconnaissables. Mais après, c'est ça, on a des dossiers qui peuvent être assez rapidement faits par les services, par les officiers de police judiciaire qui sont débordés. Quand ils ont des dizaines d'individus, c'est pas simple. Ces OPJ travaillent sur des rapports des gardiens, enfin des fonctionnaires de police ou des gendarmes qui interpellent les individus. C'est souvent donc sur une base factuelle assez restreinte. Comme il n'y aura pas d'instruction pour approfondir, ce ne serait pas possible, les juges seraient submergés, on en reste à ça. Et ça explique, in fine, que certains en profitent avec des relax ou des peines qui sont peut-être peu élevées par rapport peut-être à ce qu'ils ont fait, mais dont on n'a pas pu rapporter la preuve.
Pierre Marissève, qui est le délégué général de l'Institut pour la justice et qui est avec nous, est-ce que finalement cette impression de laxisme s'explique et comment la combler?
Je pense, monsieur le procureur général, vous avez dit quelque chose qui me paraît juste, c'est la difficulté des preuves. Effectivement, un juge ne juge pas s'il a un doute sur la culpabilité, enfin ne condamne pas s'il a un doute sur la culpabilité personnelle, individuelle de la personne qu'il a en face de lui par rapport aux faits qui lui sont reprochés. Et le problème de ce type de manifestation et d'émeute, c'est que cette responsabilité individuelle, elle devient pratiquement impossible à travailler pour un magistrat. Et donc, c'est pour ça qu'il y avait, et j'aimerais avoir votre avis, monsieur le procureur général, mais en tout cas, à l'Institut pour la justice, nous sommes en faveur d'un rétablissement de ce qui a existé en France dans les années 70. C'était Georges Pompidou qui avait instauré, dans le cas de groupements et d'émeutes à plusieurs personnes, dans lesquelles il était difficile d'identifier avec certitude qui étaient les coupables, il avait instauré une responsabilité pénale collective, voilà, de groupe. Et donc, votre seule présence dans un groupe qui commettait des crimes ou des délits était un motif de condamnation. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas et nous sommes en faveur. Monsieur le procureur général, j'aurais bien voulu avoir votre avis sur ce point.
Oui, c'était ce qu'on appelait la loi anti-casseurs, qui a été abrogée. Alors moi je renvoie ça aux législateurs. Vous savez, quelquefois on m'interroge sur un certain nombre de thèmes, faut-il légaliser la drogue, etc. Moi je réponds toujours simplement, écoutez, ce sont des décisions politiques que le politique prendra ou ne prendra pas. Tout est possible dans la loi. C'est toujours compliqué puisque responsabilité collective, ça heurte un grand principe du droit qui est l'individualisation de la peine, l'individualisation de la responsabilité. Vous êtes dans un groupe et puis par hasard, il y a une exaction, on vous prend dans le groupe et vous seriez condamné, poursuivi. Donc ça, c'est un sujet, mais encore une fois, qui est un sujet politique. C'est évidemment un texte qui permettrait une action judiciaire plus simple. Mais quel serait ce périmètre? Si vous vous retrouvez par hasard dans une rue et puis un groupe et puis on vous arrête tous, vous seriez évidemment le premier à vous indigner d'être impliqué dans une affaire dans laquelle vous n'avez joué aucun rôle. Ce n'est pas simple, parce que sinon, y a toujours pareil. Et la difficulté de la procédure pénale, vous le savez bien, et du droit pénal, c'est de concilier la protection de la société, qui est un impératif majeur, la défense de la société, avec le respect des libertés individuelles. Et c'est une ligne de crête extrêmement complexe et qu'il est difficile de trouver la solution idéale. Et cette équilibre de conciliation entre deux considérations opposées amène des textes qui peuvent être à un moment discutables, critiquables, peu efficaces ou au contraire hyper répressifs. Mais voilà, et notre société à la française essaye de concilier. Et ça amène quelquefois des pratiques qui vont être forcément discutées.
Cela dit, le spectacle de ces gens qui cassent et qui attaquent les gendarmes à coups de mortier d'artifice, etc., et qui derrière sortent souvent impunis, en tout cas, ou avec du sursis.
Et le sursis étant très rarement révoqué, malheureusement, c'est de l'impunité.
C'est ça, et alors ça, c'est vrai que ça mobilise les Français de manière considérable. Yves-Marie Sévilla et ensuite Philippe Charlez.
Oui, Jacques Dallest, effectivement, dans quelle mesure vous pensez, effectivement, vous évoquez l'opinion publique, effectivement, et son émoi légitime vis-à-vis de telles violences, dans la mesure où est-ce que vous estimez, effectivement, bon, c'est ce que vous avez développé, que la réponse, en tout cas, pénale, était adaptée dans la mesure du possible de ce que la justice avait entre les mains. Est-ce qu'il y a d'autres éléments du coup que de réponse que la justice? Ça déborde un petit peu de votre champ, mais votre avis effectivement m'intéresse. Comment analyser et arranger cette situation désastreuse dans laquelle nous sommes, puisque visiblement il y a un émoi collectif légitime, une réponse pénale qui se dépatouille, pardonnez-moi le terme, mais comme elle peut vis-à-vis des preuves qu'on a vis-à-vis des personnes incriminées, mais du coup, quelle est la solution? Où l'État doit-il aller pour améliorer une situation qui dégénère totalement et qui semble échapper au pouvoir public?
Oui, alors c'est bien, c'est vraiment la complexité. On le voit en matière de narcotrafic. Comment l'État peut-il réagir alors que vous avez 4 ou 5 millions de consommateurs de cannabis, 1 million de consommateurs de cocaïne? La réponse pénale sera jamais à la hauteur du défi. On a un peu la même chose et souvent, moi je dis que la justice pénale, c'est un peu la voiture balai de la société, qui arrive en fin de cortège. et à laquelle on demande presque de mettre fin à un phénomène, d'éradiquer un comportement, d'interdire telle ou telle chose, alors que ça se renvoie évidemment pas seulement à la dimension répressive, mais à l'éducation, à la culture. Pourquoi certains pays n'ont pas ces pratiques? Pourquoi au Japon, on n'a pas ce genre de choses? Parce qu'il y a un respect du collectif qu'il y a de moins en moins dans nos sociétés, surtout latines, on va dire. Et ça, c'est plus la justice qui pourra y répondre, comme elle aura du mal à répondre, on le voit aujourd'hui, à la criminalité sexuelle, qui est très diffuse dans la société, qui est difficile à détecter. Et là, ça renvoie à beaucoup d'autres choses. Et moi, je crois beaucoup au sport, effectivement, qui est un vecteur d'éducation, de discipline fort. Et je pense que ces jeunes sont amateurs de sport. Et on sait qu'un jeune encadré avec une discipline sort assez facilement de la délinquance. Mais les clubs de foot ne sont pas ouverts à tout le monde. Et on a un certain nombre de gamins qui ne peuvent pas arriver à suivre être capable de suivre une discipline sportive. On sait que pourtant, c'est quelque chose qui structure un jeune. Voilà, ils sont désœuvrés, ils ont des tentations faciles, il y a un business du vol, du pillage qui existe, donc il sera toujours difficile de lutter contre, en tout cas seul avec le monde pénal, police, justice. Et après, c'est aussi un sujet qui intéresse, moi je le dis souvent, les parents, les jeunes, qui savent un peu ce que fait leur gamin, qui devraient un peu mieux le contrôler, s'interroger sur ce que ramène le gosse chez lui, si c'est des objets volés, s'en indigner, lui interdire. Enfin, il y a aussi aux parents, quand il s'agit de mineurs ou de jeunes majeurs, de poser cette discipline. Mais là aussi, le système de défaitisme parental, certains sont débordés, certes, fait que les gamins se croient tout permis, font ce qu'ils veulent, et les parents tolèrent plus ou moins. Ouais. Non, mais ça, c'est un vrai sujet que j'ai rencontré dans mes fonctions, effectivement.
Il y a un énorme déficit d'éducation, et là, il y a aussi des responsables pour ça, mais c'est vraiment une solution à long terme.